18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur l'émission de la quotidienne, c'est vous qui le dites. C'est le retour du beau temps cette semaine à Brest, de quoi aller à la plage tout en écoutant les actualités. Pour cette émission de mardi, en deuxième partie, nous serons en compagnie d'Olivier Cuzon pour parler de la manifestation nationale du 1er mai qui a lieu place de la Liberté. Manifestation contre l'extrême droite également. Mais tout de suite, c'est de e-sport dont on va parler, puisque le samedi 29 avril avait lieu la deuxième édition du championnat universitaire de e-sport. Des étudiants de l'Open Campus ont organisé l'événement et on reçoit tout de suite Quentin en plateau pour nous faire un petit compte-rendu en compagnie de Marlise. Salut Marlise.
Salut.
Et salut Quentin.
Alors bonjour Quentin.
Bonjour.
Alors comment ça s'est passé cette compétition ?
Alors au départ on était 3 étudiants, donc c'est un de nos projets qu'on doit réaliser au cours de notre 3e année dans cette école. Donc nous on a choisi d'organiser la 2e édition du championnat de Bretagne universitaire sur le jeu League of Legends. Donc ce projet il a commencé à partir d'octobre 2024 et il a été réalisé en mars 2025, fin mars 2025, donc il y a eu à peu près 6 mois sur toute la réalisation et la planification de cet événement.
Donc ce n'était pas vous qui vous étiez occupé de la première édition ?
Non, donc la première édition c'était des étudiants de la même école que nous de l'année dernière, donc ils avaient un an de plus, et c'est eux qui ont tout mis en place sur cette première édition. Donc nous on avait déjà une certaine base de commencement, et ensuite on a fait avec nos moyens, on a essayé d'innover un peu plus sur cette deuxième édition.
Et vous avez eu des difficultés en termes d'organisation ?
On a eu un peu plus de difficultés pour trouver des équipes et trouver des partenaires, parce que l'e-sport c'est quelque chose qui est encore assez peu visible dans le monde, et donc il faut réussir à gagner la confiance des partenaires. Donc sans partenaires c'est compliqué d'avoir une rentrée d'argent, et pouvoir proposer ensuite un cash prize aux équipes sans partenaires c'est compliqué pour certaines de les motiver pour venir. Et au final, on a réussi à avoir 5 équipes, avec une qui s'est désinscrite au dernier moment, donc c'était plutôt pas mal.
Ouais, il y avait combien sur les 8 que vous aviez proposé, il y en a finalement 5 qui sont venus. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des équipes participantes ?
Oui, alors sur ces équipes, il y en avait 4 qui étaient issues de Brest, il y en avait une qui était issue de Rennes. Et donc, il y avait une 6e équipe, ça devait être un mélange entre 4 joueurs rennais et un joueur normand. Donc, on avait eu l'autorisation pour avoir un 5e joueur hors Bretagne. Et au final, c'était compliqué pour eux de venir en termes de trajet. Donc, ils ont dû annuler au dernier moment. Et donc, c'est que des équipes étudiantes. Donc, c'était vraiment un événement qui était 100% étudiant.
Quelles équipes ? Donc c'était des représentants de différentes écoles, de ce que j'ai compris.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous parler du classement ?
Alors on a eu 5 équipes. On a eu l'ENSTA. On a eu aussi l'ENIB. Comment ça s'appelle ? EPSUP, donc qui est une association au sein de l'Open Campus. Et on a eu deux autres équipes après.
Les gagnants sont donc, je crois, Rennes School Business.
C'est ça. Donc c'est la seule équipe rennaise c'est la seule équipe qui est venue en dehors de la région brestoise et qui a gagné ce tournoi.
Donc qu'est-ce qu'ils ont pu remporter ?
Alors cette année, on a proposé un welcome pack. Donc on avait différents goodies, puis on leur a offert le repas. Et donc, comme j'ai dit, vu qu'on n'avait pas énormément de partenaires, on n'a pas pu leur fournir du cash prize. Ils ont eu le droit aussi à un t-shirt. Et l'année prochaine, pour la 3e édition, donc le gagnant sera directement qualifié au championnat de France universitaire qui sera mis en place. Donc, ça va être quelque chose de nouveau et qui risque d'attirer un peu plus d'équipes, je pense.
Et comment ça s'est passé pour pouvoir offrir une telle offre où il faut avoir forcément des liaisons ? Comment vous aviez réussi à trouver ça ?
Alors pour ça, on était à 2, donc on a listé toutes les écoles de la région bretonne. Et ensuite, à partir de là, on a contacté les différents BDE et BDS, Bureau des Sports et Bureau des Étudiants. Et ensuite, donc on leur a proposé de venir. Et pour ça, on avait aussi un partenaire, juste un toit, donc qui fournit des logements au cas où s'ils avaient besoin, les équipes qui venaient de loin avaient besoin d'être logées. Parce qu'au début, la compétition devait être prévue sur 2 journées, si on était à 8 équipes en termes d'organisation. Et au final, vu qu'elle était avec 5 équipes, on a pu faire ça sur une seule journée, ce qui aussi permettait à Rennes de ne pas avoir besoin de trouver un logement en plus.
Revenons un petit peu sur ce qu'il y a eu autour de l'organisation, même en général. Est-ce que vous avez pu avoir du monde, plus ou moins que ce que vous pensez par rapport, par exemple, à l'édition de l'année dernière?
Alors, l'année dernière, ils avaient eu 4 équipes. Donc là, nous, on a réussi à en avoir une cinquième. Et on était aussi, on a contacté le Telegram qui est venu et qui a pris les différentes informations du championnat pour ensuite pouvoir publier un article dessus. Et donc, l'objectif principal sur cet événement, c'était surtout de permettre d'améliorer la visibilité de l'e-sport et vraiment de pouvoir essayer de créer une communauté et puis réunir un maximum d'étudiants sur cet événement.
Et qu'il y avait du changement en fait, en général, même par rapport à l'édition dernière, parce que tu parlais par exemple de la différence du prix. On est passé du coup, maintenant il y a des sacs de goodies, l'année prochaine on passera à une place dans le championnat de France. Est-ce qu'il y a eu d'autres changements en termes d'organisation pour vous améliorer par rapport à l'an dernier?
Alors, ce qui a surtout changé, c'était les partenaires. Donc là, on a travaillé avec Karma Sport pour avoir des t-shirts pour les différents participants et nos bénévoles. Et on a aussi donc travaillé avec le Moulin d'Élise qui nous a fourni les différents repas. Et sinon, il n'y a pas eu énormément de changements. On est resté aussi sur 2 bénévoles qui commentaient les parties de League of Legends sur une chaîne Twitch qui a réuni environ 300 personnes sur toute la journée, donc c'était plutôt pas mal.
D'ailleurs, pourquoi le choix de League of Legends spécialement pour cette compétition? J'imagine que c'est parce que c'est un classique.
Alors, c'est un jeu qui nous a été, ça, il nous a été imposé donc de faire cet événement sur ce jeu. Au début, on n'avait pas forcément énormément de notions sur ce jeu. Et au final, au fur et à mesure, on s'est intéressé, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande communauté. C'est l'un des jeux les plus populaires au monde. Et on s'est rendu compte que ceux qui étaient vraiment sur ce jeu, c'était des fans et vraiment des très grands fans de ce jeu.
Parce qu'à la base, si vous aviez pu choisir, par exemple, vous auriez préféré faire une compétition sur quel jeu?
On serait parti sur FIFA, sûrement. Donc un tournoi de foot. Ça aurait, à mon avis, ramené énormément de personnes et aussi un peu plus de partenaires. Pourquoi? Tout simplement parce que FIFA, c'est un jeu qui est très connu. Et donc, en termes de visibilité, ça aurait apporté aussi un peu plus à nos partenaires.
Et vous n'avez pas eu trop de difficultés à organiser sur un jeu que vous ne connaissiez pas trop à la base?
Alors, du coup, on était 3, on a dû se renseigner un peu sur les différentes règles. Il y a différentes règles et différents personnages aussi. Donc, essayer d'un peu de les découvrir. Puis, on a fait des interviews avec les joueurs lors du tournoi pour en apprendre un peu plus sur ce jeu. Et l'objectif principal, c'était surtout en fait, de détruire la base adverse. Donc c'est des équipes de 5, ils s'affrontent 5 contre 5, et l'objectif c'est du coup de détruire cette base adverse avec, ils ont différents personnages, et donc différents super pouvoirs pour ces personnages.
Et parce que tu parlais tout à l'heure aussi du fait que l'e-sport c'est pas vraiment très connu, et même reconnu, donc selon toi, dans une époque où en fait le jeu vidéo il était moins considéré comme quelque chose pour enfants, il faut dire à l'époque de nos parents notamment, c'est pas quelque chose où on pouvait faire son métier. Est-ce qu'on peut dire pour toi que ça se démocratise grâce à ce type d'événement qui est diffusé?
Alors je pense que le meilleur moyen pour apporter de la visibilité à cet événement, c'est sur les différents réseaux sociaux. Donc là, il y a déjà la chaîne Twitch qui retransmet les plus grandes compétitions européennes et mondiales. Et après, essayer de communiquer sur différents réseaux sociaux qui sont en train de se développer. Par exemple, TikTok, Instagram, qui vont toucher des tranches d'âge différentes. Et donc c'est grâce à ces différents leviers de communication qu'on va pouvoir apporter une plus grande visibilité à l'e-sport.
Et à part ça, est-ce que tu prévois... Vous avez d'autres projets? Est-ce que vous prévoyez de vous améliorer sur la prochaine édition? Vous avez des améliorations prévues? Ou est-ce que vous allez préférer peut-être passer sur d'autres types d'événements?
Alors du coup, l'année prochaine, c'est la 3e édition. Elle sera réservée à ceux qui rentreront en 3e année dans notre école. Donc nous, on n'aura plus accès à cet événement. Par contre, on pourra toujours les aider et essayer de voir des choses en commun pour pouvoir améliorer cet événement. Et donc l'objectif, c'est aussi de tout d'abord de ramener un maximum de personnes, essayer de passer à au moins 8 équipes, voire plus, et puis voir pour essayer de changer de jeu. Essayer de trouver aussi un jeu comme FIFA qui pourrait ramener plus de personnes et d'autres types de personnes aussi, ce qui pourrait être que bénéfique pour nous et pour les organisateurs.
Et est-ce que ça te motive à toi organiser peut-être d'autres événements type e-sport éventuellement?
Alors moi sur l'e-sport pas forcément. Après nous on est notre formation elle est basée sur le sport en général. Donc après avoir fait cet événement, ça nous permet de voir les différentes trames et les différentes missions à réaliser pour mener à bien un événement. Donc oui, c'est sûr que ça motive pour continuer à proposer des événements, mais pas forcément que dans l'e-sport.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et avant de continuer sur un sujet tout autre, c'est celui de la manifestation et celle du 1er mai, on vous laisse avec une petite pause musicale.
Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless you survive.
Nous sommes toujours sur l'antenne de Radio U pour la quotidienne de C'est vous qui le dites. Tout de suite, nous continuons l'émission avec Natacha qui reçoit en plateau ce soir Olivier Cuzon, professeur de physique chimie et toujours inscrit dans les luttes sociales chez Sud Éducation et Solidaire depuis plus de 25 ans. Vous inscrivez dans la vie politique brestoise de plus en plus. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Et bonjour Olivier.
Bonjour.
Jeudi 1er mai, donc qui dit 1er mai dit fête du travail. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire un petit peu, cette fête du travail?
Alors, fête du travail, c'est effectivement comme ça que c'est à noter dans le calendrier. C'est pas trop notre tasse de thé, en fait, de parler du 1er mai comme une fête des travails, mais plutôt comme fête des travailleurs et des travailleuses. Cette fête du travail, elle a été instaurée par Pétain en 1941. L'idée était de fêter, comme son nom l'indique, le travail. Et nous, ben, les travailleurs, les travailleuses, les chômeurs, les chômeuses, les précaires, on n'a pas tellement envie de fêter le travail. Le travail depuis 20 ans, en 20 ans ça paraît long, hein, c'est l'âge d'un certain nombre de vos auditeurs et de vos auditrices, le travail depuis 20 ans, il a tué 20 000 salariés. Il en a blessé 13 millions. Et donc voilà, le travail c'est... Dans notre quotidien de syndicaliste, ben c'est des gens qu'on rencontre qui sont en souffrance, en burn-out, qui sont victimes de harcèlement, qui sont victimes de violences sexuelles et sexistes. Et voilà, donc le travail, c'est pas quelque chose qu'on a envie de fêter. Et la santé au travail, on voit que ça a été un peu sacrifié sur l'autel des profits. Les entreprises n'ont jamais fait autant de bénéfices que depuis le Covid. Les caisses des patrons d'un certain nombre de grosses entreprises sont archi pleines. Et plutôt que d'investir dans la santé des salariés et dans leur bien-être, on préfère remplir les poches des actionnaires. Donc voilà, donc, nous on considère que ce sont nous, les travailleuses et les travailleurs, qui produisons les richesses que d'autres se réapproprient après. Et en tout cas, je dis, nous ce qu'on fêtera, c'est les travailleurs et les travailleuses, et pas le travail.
Très bien. Cette année, c'est aussi particulièrement, et on l'a vu et noté, que c'est vraiment une manifestation contre l'extrême droite aussi partout en France. Les organisations syndicales donc, sont à l'initiative d'un appel commun à se mobiliser. Il y a la CGT, FCU, Solidaire, l'Union étudiante, enfin tous les syndicats qu'on connaît, c'est ça. Dans un contexte un peu plus global, concernant... pareil, les grands milliardaires, Trump, Poutine, Netanyahou, Milley, Meloni, voilà, qui veulent remplacer le droit international construit après 1945 par la loi du plus fort, ou plutôt du plus riche. C'est quoi un peu, ça vous inspire quoi cette citation concernant plus l'état international et aussi du travail?
Bah, c'est vrai qu'on ne peut être qu'effrayé par l'arrivée de Trump au pouvoir. Les plus réalistes diront qu'on n'en attendait pas moins. Mais on est impressionné quand même comment il est en train de mettre à bas en quelques semaines, en quelques mois, ce droit international dont vous parlez. Nous, on est persuadés que le droit, c'est quand même un outil pour combattre la loi du plus fort, en fait. Que ce soit les droits à l'échelle nationale, le droit de la famille, le droit du travail, le droit, peu importe. Et le droit international aussi, dans la même veine, hein, il est là pour combattre la loi du plus fort. Et donc tout ce qui contribue à faire reculer ce droit international, et en ce moment... Trump est en train de le faire reculer à vitesse grand V, que ce soit à l'échelle internationale ou aussi à l'échelle de son pays, d'ailleurs les États-Unis. Hein, on commence à parler de faire travailler les enfants. Il s'assoit sur le droit, objectivement. Le droit aux migrants, hein, ce n'est pas parce qu'on est sans papier qu'on n'a aucun droit. Il y a un droit à la scolarisation, il y a un droit à la santé, il y a quand même des droits, même quand on n'a pas de papier. Et en fait, on voit que Trump est en train de s'asseoir sur tout ça. Il a beau être condamné par des tribunaux, il y a des tribunaux qui ont beau dire que ce qu'il exige de la police fédérale ou des actions de l'État fédéral sont interdites, eh ben il s'en fiche et il continue, il avance. Et c'est un signal extrêmement mauvais pour nous, ce qui fait quand même, dans une démocratie, ce qui doit prévaloir, c'est l'État de droit. On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, avec la condamnation de Marine Le Pen. Où il remettait en cause, en fait, leur condamnation, quoi. Et dans une société où il n'y a plus de droits, ben voilà, c'est la loi du plus fort qui prévaut, c'est l'immunité. Il y aurait des citoyens qui seraient au-dessus des autres. Si on revient à cette histoire de Marine Le Pen, sous prétexte qu'elle ferait de la politique, elle serait candidate au présidentiel, elle ne serait pas concernée en fait par les lois d'enrichissement grâce auxquelles elle a été condamnée.
Et justement, ces organisations-là, les conséquences pour les travailleurs et travailleuses sont déjà visibles et l'extrême droite donc s'en prend à l'état de droit. Elle attaque plein d'autres droits, l'avortement, l'éducation, les droits des immigrés, comme vous avez pu le dire, les droits LGBTQIA+. C'est quoi les changements qu'on a pu voir vraiment, qui ont marqué récemment
aux États-Unis, parce que c'est quand même un peu le fer de lance de cette affaire. Ben, en fait, il y a quand même une politique de respect des minorités. Il y avait quand même sous Biden, je ne vais pas idéaliser le mandat de Biden, mais il y avait quand même une politique de promotion par rapport au LGBTQIA+, par exemple, une politique de la diversité. les facultés étaient quand même incitées à faire des recherches dans ce sens, par exemple, parce que c'est grâce à des travaux de chercheurs qu'on peut visualiser aussi des systèmes d'oppression et de domination. Et aujourd'hui, les universités qui continueraient à travailler et investir de l'argent dans des travaux de recherche sur ces questions de mettre en avant, de visibiliser grâce au travail de recherche des oppressions, elles sont sanctionnées financièrement par la politique de Trump et elles se voient privées d'un certain nombre de financements. C'est extrêmement grave parce que, je veux dire, c'est nier en fait tout ce que la recherche peut nous apprendre, que ce soit dans le domaine scientifique, sociologique, juridique.
Et puis la justice aussi, qu'est-ce qui reste quand il n'y a même plus la justice aussi pour...
Alors non seulement il entrave effectivement le travail de la recherche, mais comme je disais tout à l'heure, il va même jusqu'à entraver le travail de la justice, puisqu'il s'assoit, l'État de Trump s'assoit sur un certain nombre de décisions de justice pour les contourner. Il y a encore des migrants qui ont été expulsés là, indûment, c'est reconnu, la Maison-Blanche reconnaît que l'expulsion était indue, qu'ils se sont trompés de personne, mais la personne elle a été expulsée et ils ne comptent pas revenir sur cette expulsion d'un Sud-Américain. C'est extrêmement grave, un État qui objectivement comme ça bafoue des lois et l'assume. On est en train de quitter ce qu'on appelle l'État de droit. Qu'est-ce que c'est que l'État de droit pour moi ? C'est un tribunal administratif, c'est la Cour de cassation, c'est le Conseil d'État qui, en fait, un tribunal administratif, il peut casser une décision de l'État. Quand il y a des migrants qui sont, où il y a des tentatives d'expulsion en France, ils peuvent aller devant le tribunal administratif, contester une décision de la préfecture du Finistère, contester une décision d'expulsion. Et c'est un juge indépendant qui va, au regard du droit en vigueur, dire si la préfecture du Finistère a raison de chercher à expulser la personne ou s'est trompée. C'est ça l'état de droit, c'est que l'État a aussi des comptes à rendre devant la justice. Et c'est la séparation des pouvoirs. Sous Trump, on est en train de tomber dans un système où en fait l'État n'aurait plus de comptes à rendre. Et là, ça commence à s'appeler un État autoritaire, voire fascisant. Si l'État n'a plus de comptes à rendre devant la justice, si la justice est inféodée à l'État, ça ressemble à du fascisme.
Concernant la manifestation de ce jeudi, est-ce que vous attendez beaucoup de monde ?
On espère. Depuis le temps qu'on fait les 1er mai, on a tout vécu. Il y a 2 ans, le 1er mai 2023, il a été gigantesque. C'était 25 ou 30 000 personnes. On était en plein milieu d'une bagarre sur les retraites. Il y a eu des 1er mai historiques de lutte contre l'extrême droite, ça nous ramène loin, je pense au 1er mai 2002 où Jean-Marie Le Pen s'était retrouvé au deuxième tour contre Chirac. On a eu des 1er mai plus petits, plus fragiles, avec moins de dynamique. Aujourd'hui, le 1er mai, il faut quand même se souvenir que c'est aussi une fête internationale et internationaliste, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu les travailleurs du monde entier et les travailleuses du monde entier qui commémorent, en fait. C'est une journée de lutte et d'action qui commémore des morts, en l'occurrence. Hein. Ça a commencé à Chicago, il y a de ça plus de 150 ans. Et puis à Fourmies, en France, au début du siècle, du 20e siècle. Quand je pense aux journées internationales, je pense aux citoyens, aux citoyennes qui continuent de mourir en fait, partout dans le monde, que ce soit à Gaza, que ce soit en Ukraine. Parce que c'est toujours les travailleurs et les travailleuses qui sont les victimes des guerres, en fait. Hein. C'est un peu eux qui sont les victimes de ces grands dictateurs qui envoient des troupes comme ça, mais en fait, c'est essentiellement des civils qui meurent à l'arrivée.
Et elle en est où aujourd'hui, cette économie de guerre ou cette guerre commerciale ?
Voilà, les attaques, l'agressivité de Poutine fait que Macron a trouvé là un boulevard pour commencer à parler d'économie de guerre. Nous, le mouvement ouvrier a quand même été porteur de la paix, en fait, hein, parce qu'on pense que la guerre, ça ne sert à rien. Économiquement, ça ne sert à rien, au sens où on construit des bâtiments militaires, on se tire des obus. Et en plus de faire des morts, c'est des investissements considérables en termes de richesse. C'est des qui ne servent à rien, des investissements qui ne servent à rien. Quand on construit un porte-avions nucléaire, c'est de l'argent qui est perdu, gâché, j'ai envie de dire. On ferait mieux de construire des bateaux hôpitaux pour aller aider des pays qui sont victimes de séismes, de catastrophes climatiques, parce qu'on va en avoir des catastrophes climatiques dans les années à venir. Et donc les investissements militaires, ils servent juste à se défendre contre l'agressivité d'un autre. Mais si le monde était un peu plus pacifique, on serait autrement, tous collectivement, beaucoup plus riches.
Ouais. C'est ce que dit le communiqué justement, qu'il faut donner à nos services publics, à nos écoles, nos hôpitaux, nos universités les moyens de fonctionner et de protéger aussi les contre-pouvoirs aussi. Protéger ouais. l'indépendance de la justice, garantir la liberté de la presse toujours, même si elle est toujours mise en danger.
Elle est fragilisée, forcément. Elle est fragilisée par des milliardaires qui rachètent des pans entiers de la presse et puis en dictant des lignes éditoriales les plus caractéristiques et les plus caricaturaux étant peut-être CNews ou Europe 1. Mais la liberté de la presse, c'est quelque chose qui est toujours à défendre. Ben voilà, ici, vous êtes une radio, vous êtes bien placé pour savoir que voilà, c'est important cette liberté de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'on veut, des choses avec lesquelles on est d'accord et d'autres, des fois, avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais qu'importe, ce qui est important, c'est cette liberté de pouvoir s'exprimer. Et c'est un des piliers de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, ce n'est pas simplement le fait d'aller voter une fois tous les 5 ans pour un président de la République, parce que sinon, en Russie, ce sont des démocrates. Ils vont voter aussi. Hein. En Israël, c'est aussi une démocratie. En Hongrie, sous Orban, c'est une démocratie. Et voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, la démocratie. C'est aussi le fait de laisser s'exprimer des mouvements sociaux, des mouvements de contestation qui contestent le pouvoir en place et que ces mouvements ils puissent être reliés par des organes de presse, par des radios, par des télés, par des journaux et qu'il y ait une liberté pour les journalistes et les radios associatives de pouvoir parler de ces mouvements de contestation du pouvoir en place.
Est-ce que vous avez deux choses à rajouter concernant jeudi ?
Il y aurait mille choses à dire sur jeudi, parce que c'est vrai qu'au niveau les salariés français ont aussi des revendications en termes de, vous en avez parlé déjà, de la question du service public, hein. C'est important pour le service public parce que c'est un des outils de lutte contre les inégalités. Quand on regarde le dernier scrutin, il y a un an, ça fait pas si longtemps, hein, c'était les européennes, et qu'est-ce qu'on a vu? Un résultat quand même extrêmement affolant, c'est que la liste Bardella, hein, de Le Pen, elle arrive, elle fait le double, elle est à plus de 31%. La deuxième liste, celle de l'équipe Macron, elle fait moins de 15%. Il y a quand même une présence de l'extrême droite qu'on a un peu oubliée, parce que derrière, après, il y a eu des législatives qui ont... La seule question, je rappelle quand même, au mois de fin juin, début juillet, la seule question qu'on se posait, quand Macron ait cette fumeuse idée de dissoudre l'Assemblée nationale, c'était de savoir si le Rassemblement national aurait la majorité absolue ou relative. Alors après, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Macron a perdu son pari, que la gauche a réussi à se réunir dans le nouveau Front populaire et que finalement, on se retrouve avec une Assemblée nationale où il y a en gros 3 blocs d'égale importance, ce qui fait que le Rassemblement national a finalement beaucoup moins de pouvoir que ce que les sondages pouvaient laisser craindre. Mais ça laisse quand même... Enfin, je veux dire, il ne faut pas oublier que l'extrême droite, elle nous attend au tournant. Elle est là, elle a fait 30%, plus de 30% aux dernières élections européennes. Dans plein de pays européens, elle est arrivée première et quand elle n'était pas première, elle a fait des scores absolument inquiétants. En Belgique, en Hongrie évidemment, en Pologne, en Allemagne, aux Pays-Bas. Voilà, donc on a une extrême droite qui nous attend au tournant. Et je reviens à mes services publics parce que dans une région comme la Bretagne, on voit que l'extrême droite fait des scores très importants, en particulier dans un milieu rural, là où les services publics sont en train d'abandonner des populations entières. Et donc nous, on fait un lien très fort entre l'abandon d'un certain nombre de territoires par les services publics et la montée du Rassemblement national, parce qu'il y a un certain nombre de citoyens qui, se sentant abandonnés, bah, se réfugient dans ce vote réactionnaire contre les minorités de l'extrême droite. Et donc, pour nous, le renforcement des services publics, c'est une manière, et c'est probablement la meilleure manière de lutter contre la montée de l'extrême droite.
Comment vous allez chercher un petit peu ces personnes-là, justement ?
C'est une vraie difficulté parce qu'il n'y a pas que l'extrême droite qui a abandonné les milieux ruraux. Il faut le dire ce qui est, le syndicalisme aussi. Hein, on est beaucoup moins présents, clairement. Les manifs, elles sont toujours à Brest, à Quimper, à Morlaix, à Quimperlé. Mais on a beaucoup plus de mal à aller dans ces territoires ruraux qui sont un peu abandonnés de tout le monde, en fait. Et il y a encore du monde qui vit dans ces territoires. La France reste un pays où il y a une ruralité. Et les politiques publiques doivent absolument s'emparer de cette question-là. Nous aussi, bien sûr, en tant qu'organisation syndicale, on a un devoir de ne pas abandonner ces populations-là et de continuer à aller rencontrer ces gens-là et de leur dire qu'ils ne sont pas abandonnés et de les mettre dans la lutte aussi et de les écouter, de faire vivre leurs revendications. La balle est aussi dans notre camp, mais elle est quand même avant tout, j'ai envie de dire, dans celui de l'État, de ne pas abandonner ces territoires ruraux, en particulier en faisant vivre et en donnant des moyens aux services publics de vivre. des écoles, des hôpitaux.
Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les horaires pour jeudi et puis le lieu aussi?
Voilà, donc jeudi à Brest, on se retrouve à 10h30, place de la Liberté. Il y aura la fameuse chorale Peuple et Culture qui viendra chanter une petite demi-heure. Vers 11h, il y aura les allocutions, l'allocution unitaire syndicale, parce que l'ensemble des organismes syndicaux a réussi à se mettre d'accord sur une seule allocution. Et ça, c'est bien, ça montre aussi une force. On a des divergences entre nous, mais ce jour-là, voilà, on arrive à se mettre d'accord sur un discours unique. On ira défiler en ville, et puis après, on se retrouve à place Édouard Mazé, devant le lycée de l'Arc de Loire, hein, place Édouard Mazé devant la maison du peuple pour partager un pot et un pique-nique avec le beau temps qu'il fait. On espère qu'on pourra en profiter. Voilà, donc tout le monde est bienvenu, et même les retardataires et les lève-tards, parce que c'est un jour férié, cette fête des travailleurs et des travailleuses. Donc on peut même arriver en retard et se donner rendez-vous à place Édouard Mazé après midi, midi et demi.
Eh bien, merci beaucoup Olivier Cusson pour cette interview.
Merci à vous de votre accueil.
C'est une fin d'émission que je vous annonce ce soir, mais ne vous inquiétez pas puisque l'on se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne d'info locale. Bonne soirée à toutes et à tous.